Béchou n'y était nullement. Malgré le ridicule de la situation, il s'efforçait de réunir ses idées et d'évoquer un gardien de la paix en fonction.
« Allons, mon pauvre vieux, tu n'es pas en forme aujourd'hui.
Toi, toujours si perspicace. Faut donc que je te mette les points sur les i. » C'est sur son nez que Barnett mit quelque chose. S'étant élancé hors de la pièce, il revint, tenant en équilibre sur le dîner, un bâton d'agent. Le bâton blanc avec lequel les policemen de Paris, comme ceux de Londres et comme ceux du monde entier, dominent, ordonnent, gouvernent les foules, commandent aux piétons, endiguent le flot des voitures, les délivrent, les canalisent, bref, sont rois de la rue et maîtres de l'heure. Avec celui-là, Barnett jongla comme avec une bouteille, le fit passer sous sa jambe, derrière son dos, autour de son cou. Puis, s'asseyant et le tenant entre le pouce et l'index, il l'interpella. « Petit bâton blanc, symbole de l'autorité, toi que j'ai pris au ceinturon de l'agent Rimbourg pour te remplacer par un de tes innombrables frères, petit bâton blanc, je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas, en te soupçonnant d'être le coffret inviolable où la vérité fut enfermée ? Petit bâton blanc, baguette magique de l'enchanteur Merlin, tandis que tu faisais stopper l'automobile de notre persécuteur, le financier, ou de notre adversaire, monsieur le ministre. C'est bien toi, n'est-ce pas, qui détenais le talisman libérateur ? » De la main gauche, il saisit le manche, strié de rainures. De la main droite, il serra le dur morceau de frêne enduit de ripolin, et il fit un effort pour dévisser. « C'est bien cela ! J'ai deviné ! Chef-d'œuvre difficile, impossible presque ! Miracle d'habileté et de minutie, qui suppose que l'agent Rimbourg a pour ami un tourneur comme on en rencontre peu. Par quel prodige a-t-on pu évider ainsi l'intérieur d'un bâton de frêne, y pratiquer un canal qui ne le fasse pas éclater, le doter d'un pas de vis irréprochable, faire en sorte que la fermeture tienne hermétiquement et que le sceptre de l'agent ne branle pas dans le manche. » Barnett tourna. La poignée se dévissa, découvrant une virole de cuivre. Le général et Béchou regardaient éperdument. L'objet se scinda en deux parties. Dans la plus longue, on entrevoyait un tube de cuivre qui devait s'enfoncer jusqu'au bout. Les visages étaient contractés. On retenait sa respiration. Malgré lui, Barnett agissait avec un peu de solennité. Il renversa le tube et le frappa sur une table. Un rouleau de papier en tomba. Béchou, livide, gémit.
« La photographie, je la reconnais. »«
Ah, tu la reconnais, n'est-ce pas ? Hein, environ 15 centimètres, décollée de son carton, quelque peu froissé. Voulez-vous la dérouler vous-même, mon général ?» Le général Desroques s'empara du document d'une main qui n'était pas aussi sûre qu'à l'ordinaire. 4 lettres et un télégramme s'y trouvaient épinglés. Il contempla la photographie un moment et la montra à ses deux compagnons en expliquant d'une voix où il y avait une émotion infinie, de la joie et peu à peu une angoisse croissante.
Le portrait d'une femme, une jeune femme qui tient un enfant sur ses genoux. On retrouve en elle l'expression même de Madame Veraldi, telle que la représentent les photographies publiées par les journaux. Ah, sans aucun doute, c'est elle, il y a 9 ou 10 ans peut-être. Ah, d'ailleurs, la date est inscrite, ici en bas. Ah, tenez, je ne me trompais guère. Cela remonte à 11 ans. Comme signature, Christiane, le prénom de Madame Veraldi. Que devons-nous penser ? Mon fils la connaissait donc à cette époque, avant qu'elle ne soit mariée ?
Lisez les lettres, mon général. fit Barnett qui tendit la première feuille, usée à l'endroit des plis et où l'on apercevait une écriture de femme. Le général Desroques lut, et dès le début étouffa un cri, comme s'il apprenait une chose grave et douloureuse. Avidement, il continua sa lecture, parcourut les autres lettres et le télégramme que lui offrait Barnett au fur et à mesure. Et il se tut, le visage bouleversé d'angoisse. « Vous pouvez nous expliquer, mon général ?» Il ne répondit pas aussitôt. Ses yeux se mouillèrent de larmes. À la fin, il dit sourdement
« C'est moi le vrai coupable. Il y a une douzaine d'années, mon fils Jean aimait une jeune fille du peuple, une simple ouvrière de qui il avait eu un enfant, un petit garçon. Il voulait l'épouser. Par orgueil, stupidement, j'ai refusé de la voir et je me suis opposé à ce mariage. Il allait passer outre à ma volonté, mais la jeune fille se sacrifia. Voici sa lettre, la première. Adieu, Jean. Ton père ne veut pas de notre mariage. Tu ne dois pas désobéir. Cela porterait malheur à notre cher petit. Je t'envoie notre photographie à tous deux. Garde-la toujours et ne nous oublie pas trop vite. » Ce fut elle qui oublia. Elle épousa Veraldi. Jean, prévenu, fit élever l'enfant chez un vieux maître d'école aux environs de Chartres, où sa mère alla plusieurs fois le voir en grand secret.
Béchoux et Barnett se penchèrent. À peine si l'on entendait les paroles que le général semblait prononcer pour lui-même, tout en tenant les yeux sur les lettres où le passé se résumait d'une manière si troublante.
« La dernière remonte à 5 mois. Quelques lignes. Christiane avoue ses remords. Elle adore l'enfant. Puis plus rien. Mais il y a le télégramme, envoyé par le vieux maître d'école et adressé à Jean. Enfant très malade, venez. Et sur ce télégramme, ces terribles mots de mon fils écrits par la suite et relatant l'épouvantable dénouement. Notre fils mort. Christiane s'est tuée. »
De nouveau, le général garda le silence. Les faits, d'ailleurs, s'expliquaient d'eux-mêmes. Au reçu du télégramme, Jean avait cherché Christiane et l'avait entraînée, toute défaillante, vers l'automobile. En revenant de Chartres, après avoir embrassé son fils mort, Christiane, dans une crise de désespoir, s'était tuée. Que décidez-vous, mon général ?
De proclamer la vérité. Si Jean ne l'a pas fait, c'est évidemment pour ne pas accuser la morte. Mais c'est aussi pour ne pas m'accuser, moi, qui porte la responsabilité de la douloureuse histoire. Cependant, quoique certain que le maître d'école de Chartres ne le trahirait pas, et non plus le gardien de la paix Rimbourg, il a tout de même voulu que cette vérité ne fût pas anéantie et que le destin pût remettre les choses à leur place. Puisque vous y avez réussi, monsieur Barnett...
J'y ai réussi, mon général, grâce à mon ami Béchoux, ne l'oublions pas. Si Béchoux ne m'avait pas amené l'agent Rimbourg et son bâton blanc, je perdais la partie. Remerciez Béchoux, mon général.
Je vous remercie tous deux. Vous m'avez sauvé, mon fils. Et je n'hésite pas à remplir mon devoir.
Béchoux approuva le général Desroques. Impressionné par les événements, mettant de côté tout amour-propre, il renonçait à intercepter les documents que recherchait la police. Sa conscience d'homme l'emportait sur sa conscience professionnelle. Mais comme le général se retirait dans sa chambre, il s'approcha de Barnett, lui frappa sur l'épaule et dit brusquement « Je vous arrête, Jim Barnett !» Et il dit cela d'un ton naïf et convaincu, comme un homme qui sait parfaitement que sa menace est vaine, mais qui la lance quand même par scrupule, et pour ne pas déroger à sa mission qui était d'arrêter Barnett. « Bien dit, Béchou !» s'écria Barnett en lui tendant la main. « Bien dit !» Me voici arrêté, jugulé et vaincu. On ne peut rien te reprocher. Maintenant, si tu y consens, je m'évade, ce qui donne toute satisfaction à ton amitié pour moi. Béchou formula malgré lui, avec cette sorte de candeur qui le rendait sympathique. Tu les dépasses tous, Barnett. T'as une tête de plus qu'eux. Ce que tu as fait aujourd'hui tient vraiment du miracle. Avoir deviné ça, avoir deviné sans aucun indice une cachette aussi invraisemblable qu'un bâton de gardien de la paix. Barnett joua la comédie.
Bon, l'appât du gain stimule l'imagination.
Quel gain? Ce n'est pas ce que t'offrira le général Derrick.
Et que je refuserai, puisque l'agence Barnett est gratuite, ne l'oublions pas.
Alors? Jim Barnett fut impitoyable. Alors, Béchou, en parcourant la quatrième lettre du coin de l'œil, j'ai appris que Christian Veraldi, dès le début, avait averti loyalement son mari.
Par conséquent, celui-ci, connaissant l'ancienne liaison de sa femme et l'existence d'un enfant, a trompé la justice en ne l'éclairant pas. Et cela, dans le but de se venger de Jean Derrick et de l'envoyer, si possible, à l'échafaud. Calcul effroyable, conviens-en.
Crois-tu donc que le richissime Veraldi ne serait pas heureux de racheter une lettre aussi infamante, et que si un brave homme, désireux d'étouffer un nouveau scandale, allait la lui proposer gentiment, crois-tu que Veraldi n'en donnerait pas un joli prix?
À tout hasard, je l'ai mise dans ma poche.
Béchou soupira, mais n'eut pas la force de protester. Pourvu que l'innocence triompha, que le mal fût réparé et le crime puni d'une façon ou d'une autre, n'était-ce pas l'essentiel? Et devait-on attacher tant d'importance à ces petits prélèvements de la dernière heure qui, somme toute, s'exerçaient toujours aux dépens des coupables ou des fautifs?
Adieu, Barnett.
Vois-tu, il est préférable qu'on ne se rencontre plus. Je finirai par perdre toute conscience professionnelle.
Adieu.
Adieu donc, Béchou. Je comprends tes scrupules. Ils t'honorent. Quelques jours plus tard, Béchou recevait de Barnett cette missive. Sois heureux, mon vieux. Bien que tu n'aies pas coffré ce coquin de Barnett, comme tu l'avais promis, ni intercepté la photographie comme on te l'avait ordonné, j'ai si bien plaidé ta cause, si bien montré ton rôle prépondérant en l'occurrence, que j'ai fini par obtenir ta nomination au grade de brigadier.
Béchou eut un geste de fureur. Être l'obligé de Barnett? Était-ce admissible?
Mais d'autre part, pouvait-il refuser que la société récompensât le mérite d'un de ses meilleurs serviteurs, alors que les mérites de Béchou ne faisaient aucun doute pour Béchou? Il déchira la lettre, mais accepta le grade.